4 présente. Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio du Café et des Sports hebdomadaires. Vous en avez pris l'habitude en son, en images, à travers vos postes radio, grâce à Internet et à Facebook Live ou encore sur France 24 en fin de soirée. Mes invités sont déjà là. Rémi se tient à carreau aujourd'hui. Bonjour Rémi
Ngono. Ah oui, à carreau et surtout avec des couleurs qui sont presque semblables aux tiennes.
Presque. Bonjour Rémi, bienvenue dans le Café des
Bonjour
Sports.
Bonjour Annie.
Bonjour Xavier Barré.
Bonjour Annie.
Bonjour, on s'est vu, pour ceux qui nous suivent tous les jours, on s'est vu hier.
J'ai dormi ici, presque.
Moi aussi. Tout le monde se demandait si vous seriez aussi dans le Café des Sports. Mais oui, bien sûr, Xavier Barré ne loupe jamais.
On s'est chauffé toute la semaine. J'ai entendu Rémi Ngono lundi dans l'émission.
Ah,
et donc, voilà, hier, j'étais là pour parler d'autres sujets. Et aujourd'hui
on
ne va pas se louper. Oui.
On va conclure la semaine. Et puis, il y a Frédéric Suteau. Aujourd'hui, il est à sa place. Bonjour Frédéric.
Bonjour Annie. Le bonjour des auditeurs. Yann Le Poulpeau, il est à Yaoundé. Il nous aura des petits émojis, là, vous savez, ces petits bonhommes qui courent. Il y en a quatre. Il dit, je me dépêche, il faut que je sois à l'heure pour l'émission.
Ils sont toujours sympathiques, nos auditeurs et nos téléspectateurs ou spectateurs d'une façon générale, et ils sont au rendez-vous. Alors justement, au rendez-vous aujourd'hui de nos débats, Carlo Ancelotti et José Mourinho. L'Italien et le Portugais au palmarès record sur la scène européenne. 4 Ligues des Champions pour l'entraîneur du Real Madrid, 5 Coupes européennes pour celui de l'AS Roma. Sont-ils les meilleurs entraîneurs du moment ? Ou d'Europe, ou du monde, nous en débattrons. Le retour des sélections nationales et des matchs officiels, particulièrement en Afrique et en Europe, pour les équipes africaines, en vue le rendez-vous en Côte d'Ivoire pour la CAN 2023 et le début donc des éliminatoires. Pour les Européens, c'est la Ligue des Nations. Et vous allez le voir, elle ne fait pas que des heureux pour ceux qui pensent qu'ils jouent trop. Des bleuets champions d'Europe, l'équipe de France des moins de 17 ans a remporté la compétition continentale. Une belle génération, assure-t-on. Mais l'avenir de ces 6 jeunes garçons est-il si bleu ? Nous en parlerons aussi. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation, ainsi que Souel Kedir et Pierre Roland. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts.
Carlo Ancelotti, 4 trophées de la plus prestigieuse des compétitions continentales.
À les joueurs, je dois dire merci.
José Mourinho, 5 finales européennes toutes gagnées.
This for us is our Champions League.
Ils ont tous les deux la chevelure un peu blanchie alors qu'ils abordent ou s'approchent de la soixantaine. Et tous les deux ont écumé les terrains de foot et les vestiaires des plus grands championnats et des plus grands clubs européens. Leur style est totalement différent. Mais l'Italien Carlo Ancelotti et le Portugais José Mourinho sont aujourd'hui les deux entraîneurs au palmarès les plus enviables du moment. Rappelé sur le banc du Real Madrid il y a tout juste un an, Mister, comme l'appelle sympathiquement tous ces joueurs, Mister Ancelotti a ces dernières semaines établi 2 records. D'abord, il est le premier entraîneur à avoir remporté les 5 plus grands championnats d'Europe, donc dans les 5 pays où il a travaillé. Et puis, il est le premier depuis samedi soir dernier à remporter 4 Ligues des Champions, 4 en tant qu'entraîneur, parce qu'il en avait déjà gagné aussi en tant que joueur. Il en avait gagné 2. Carlo Ancelotti, Rémi Ngono, est-il le meilleur entraîneur du moment grâce à ses records ?
Effectivement, il est. Et de toutes les façons, je crois que s'il y a 2 entraîneurs que le meilleur président du monde a voulu avoir dans toute sa carrière, dans toute sa vie, c'était Ancelotti et Mourinho. Mourinho, il le recrute au moment où, justement, le Real ne parvenait pas à s'imposer devant le Barça. Et Mourinho vient, pam, il dit, je t'ai vu gagner avec l'Inter, je te recrute. Et ça s'est passé de la même façon avec Ancelotti. Il voit Ancelotti et il veut le prendre à Paris. Tout le monde ne croyait pas à ce Paris. Et d'ailleurs, Ancelotti, qui justement a été critiqué au niveau de Paris, va profiter de la situation.
Par ses propres dirigeants.
Voilà, justement, par ses propres dirigeants. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Il faudrait payer à Paris 7 millions d'euros. Carlo Ancelotti va accepter débourser de ses propres poches 3 500
000. Ouais, et il partira gagner la décima.
Et il partira gagner la décima qui manquait au Real depuis une certaine période.
Mais alors, est-ce que le palmarès fait tout ? C'est ça aussi, Rémi, la question.
Ce n'est pas...
On parle de Carlo Ancelotti, parlons du maître tacticien, sans doute. On se souvient, quand il était à Paris, on parlait beaucoup du sapin de Noël, hein, vous vous en souvenez ?
Ouais.
C'est sa tactique à lui. Est-ce qu'il est toujours un maître tacticien et le meilleur du moment, voire le meilleur d'Europe ou
c'est
du monde ?
Le meilleur tacticien du moment parce que... Je crois qu'il a eu...
Plus que Guardiola, plus que Tuchel, plus
Guardiola, oh là là. Guardiola, c'est beaucoup de la publicité, c'est du tam-tam à l'unisson. Et dans tout ça,
c'est
avec tous les grands effectifs qu'il a eus, il n'a pas remporté. Je vous ai toujours dit, en toute chose, il faut considérer la fin, disait La Fontaine.
Et donc Carlo Ancelotti.
Carlo Ancelotti, par contre, lui, c'est quelqu'un qui arrive, qui se fixe des objectifs.
C'est-à-dire
que lorsque vous le voyez, par exemple, prendre l'équipe du Real Madrid, même pour la décima, à une certaine période, il a toujours mis dans la tête des joueurs que c'est dans les derniers moments que le match se joue. Rappelez-vous, contre Atlético, c'est à la 93e minute que, justement...
Quel était l'objectif de Carlo Ancelotti à Naples ? Était l'objectif de Carlo Ancelotti à Everton ? Et même avec le Bayern de Munich, tu passes ton temps à rappeler que Guardiola n'a pas été champion d'Europe avec le Bayern de Munich.
Mais Everton, c'est un grand club.
Qu'est-ce que Carlo Ancelotti
Naples,
a fait
c'est un grand club d'Europe.
Qu'est-ce que Carlo Ancelotti a fait avec le Bayern? Il n'a pas gagné la Ligue des Champions non plus.
Il a été champion d'Allemagne.
Donc, il a été champion d'Allemagne comme Guardiola.
Comme tous les entraîneurs au Bayern de Munich. Et Ancelotti est un très bon entraîneur. Mais votre question, je crois, Annie, c'est savoir si c'est le meilleur.
Mmh. Ben non. Du moment.
Non, c'est pas
du
le meilleur. Moment. J'ai écouté religieusement Rémy Ngono nous tracer l'historique de Carlo Ancelotti. On le connaît tous, son palmarès, effectivement. Il a un palmarès assez extraordinaire parce qu'effectivement, il est allé dans plein de pays, ce que peu d'entraîneurs
ont fait. Il a battu Guardiola, lui ou non.
Et donc, ce qu'il a réussi à faire dans chacun de ces pays, à être champion, il a réussi à le faire avec de très grands clubs, de très grands joueurs, mais d'autres l'ont été
mais
avant
lui. Mais le palmarès européen en plus.
Et d'autres l'ont été après lui. Donc, c'est pas le meilleur, c'est un très bon entraîneur, mais ce n'est pas
il
le meilleur.
Il a battu pourquoi Jürgen Klopp.
Parce que...
Il a battu Jürgen Klopp.
On ne parle pas de boxe, là, on parle de football. Donc, on regarde ce que les entraîneurs laissent comme palmarès et ce qu'ils laissent comme innovation tactique dans leur... ce qu'ils apportent au jeu. Et Ancelotti apporte effectivement de la réussite au niveau du palmarès. C'est indéniable. Mais qu'est-ce qu'il apporte dans le jeu ? Qu'est-ce qu'il a apporté comme innovation tactique ?
Quel est son style ?
Alors, c'est la verticalité. Recherchez immédiatement la surface de réparation. Et quand vous avez quelqu'un comme Toni Kroos, qui sait faire des transversales, quand vous avez, par exemple, un Casemiro qui peut casser des lignes, lorsque vous avez deux fléchettes qu'on appelle Karim Benzema et un Vinicius qui sait dribbler, vous n'allez pas faire du tiki-taka de Guardiola. C'est pour ça qu'il bat Guardiola et Jürgen Klopp. Vous me dites, grands entraîneurs. Et vous trouvez que lui n'est pas bon. Mais attendez, c'est sur deux matchs qu'il est.
J'ai pas dit qu'il est pas bon. J'ai dit qu'il est très bon.
Il est le meilleur.
Non, la question d'Annie, c'est est-ce que c'est le meilleur ? Je dis non. Qu'est-ce que laisse comme trace
Carlo Ancelotti ?
Non, mais il est champion d'Europe. Il gagne la Ligue des Champions. Il gagne la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Si c'était un vrai championnat où tout le monde joue contre tout le monde, jamais il est champion d'Europe.
Quelle est
l'équipe qu'il n'a pas battue ?
Dans un championnat très faible cette année, c'est pas Rémy Ngono qui va me dire le contraire, puisque le Barça, qu'il n'a cessé de décrier, a quand même terminé deuxième de ce championnat. C'est dire s'il est très faible, effectivement. Et d'ailleurs, en tant que champion d'Espagne, après 38 journées, il a moins de points que Liverpool, deuxième du championnat d'Angleterre,
le champion de France,
qui est bien plus relevé.
Je ne dis pas que Pochettino
est un stratège. J'ai rien vu de ce qu'a pu faire Pochettino cette saison. La question d'Annie, c'est est-ce que Ancelotti est le meilleur ? Tu nous as fait une démonstration très bancale pour dire oui. Et ben moi, je réponds avec une démonstration bien éprouvée que non.
Frédéric.
Ben, tout dépend quels sont les critères que l'on retient. Voilà, est-ce que c'est exactement. Le palmarès? Est-ce que c'est la façon dont on fait jouer son équipe? Dans ce cas-là, moi, Coco Suedo, l'entraîneur du FC Nantes dans les années 80-90, c'était le plus grand entraîneur du monde. Si Bien on regarde sûr. Le palmarès, oui, il a 4 Ligues des Champions, personne n'a fait mieux. Et en tant que joueur, il en a gagné 2 aussi, hein, Carlo Ancelotti, avec l'AC Milan, 89-90. Une époque où il était titulaire. Il y avait Arrigo Sacchi qui était l'entraîneur. Il a dû beaucoup apprendre. À ses côtés, sur le terrain, il y avait Rijkaard, Gullit, Van Basten, la grande équipe, le grand Milan des années 90. Mais est-ce que c'est le meilleur entraîneur du monde? Bon, il a gagné la Ligue des Champions. Il y a 2-3 ans, c'était Zinedine Zidane le meilleur entraîneur du monde? Pas forcément. En tout cas, c'est lui qui avait la formule magique pour gagner, encore une fois, avec le Real.
Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé à Lyon au début des années 2000. À Lyon, on disait... Jacques Santini, formidable entraîneur. Il a amené Lyon à son premier titre de champion. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Jacques Santini?
Après, on l'a envoyé en équipe de France, ça a été compliqué.
Oui, ça a été une catastrophe. À Tottenham, il est resté 7 journées. Voilà. Après, on a eu Paul Le Guen, qui est un type adorable, mais actuellement, il est au Havre en deuxième division. Il n'arrive pas à les faire remonter. On a eu le regretté Gérard Houllier. On a eu Claude Puel aussi. On a eu plein d'entraîneurs à Lyon. Et Lyon était toujours champion. Et ces entraîneurs-là, à chaque fois, on se disait, est-ce que c'est le meilleur entraîneur? Est-ce que c'est le meilleur? Il y a des circonstances où le club fait le palmarès de l'entraîneur. Et le Real Madrid, là, je pense que Rémy Ngono sera d'accord avec moi, c'est un grand club avec un énorme effectif, avec de très grands joueurs. Et il a un peu tendance... l'entraîneur
City champion. Alors, il y a la tactique, le maître tacticien, l'italien, on connaît. Mais est-ce qu'il y a aussi un savoir-faire psychologique, peut-être? Parce qu'on parle d'un ours, d'un gentil ours, ça c'est Paolo Maldini qui l'a dit. Quelqu'un qui est très proche de ses joueurs, et on l'a vu sur la pelouse samedi soir.
Il est très proche de ses joueurs, mieux que par exemple Joop Henkes, qu'on disait aussi le pacificateur. Mais surtout, il a cette expérience que je vais encore vous dire que nous avons quand même eu des entraîneurs comme Lopetegui. Eh bien, ils sont venus échouer avec un bon effectif.
Enfin, Lopetegui, vous connaissez l'histoire. Vous vous souvenez qu'Ancelotti, il est venu pacifier le vestiaire après Mourinho.
Voilà, mais c'est ça. C'est-à-dire que s'il a réussi à pacifier le vestiaire, on ne peut pas dire que c'est un mauvais entraîneur. Et maintenant, je vais dire que même à cette époque-là, il avait réussi à enchaîner et le Barça n'était pas nul. 22 victoires d'affilée, ce qui n'était pas arrivé dans l'équipe du Real depuis au moins 40 ans. Donc, il a fait. Et maintenant, lorsqu'on essaie de regarder les effectifs, j'ai dit bien que cette équipe du Real, qui avait été éliminée précocement de la Ligue des Champions, a réussi à redresser la tête de telle sorte que si vous battez l'équipe de Mbappé, Neymar, Messi, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain. Vous prenez maintenant l'équipe de Pep Guardiola, qui a justement
Vous prenez le
champion d'Europe antique, c'est-à-dire Chelsea. Vous battez. Vous prenez battez.
Non, mais ça, on sait.
Parmi
les inepties que vient de dire
Rémy Ngono,
parmi les inepties qu'il vient de dire, il nous parle du pacificateur. Le pacificateur, il s'est fait virer du Bayern de Munich. Il ne faut pas oublier ça non plus. Donc même dans les grands clubs, ça ne marche pas à tous les coups. Parce que Rémy Ngono nous dit, oui, Joop Henkes n'a pas réussi. Joop Henkes, chaque fois qu'il est passé au Real, il n'est pas resté très longtemps.
Capello a été viré 2 fois du Real.
Ben voilà.
Tous les entraîneurs ont été virés.
C'est le Real qui fait les champions. C'est le Real Madrid qui fait les palmarès des entraîneurs.
Parce qu'il a 62 ans, Carlo Ancelotti. Mais quand on gratte un petit peu, les nouvelles technologies pour analyser l'adversaire, il a beaucoup d'adjoints, il y a son fils qui est dans le staff,
il s'est très bien entouré, notamment avec son fils. Et on dit même d'ailleurs qu'il a accepté cette dernière mission justement pour lancer son fils qui n'a pas encore vraiment de notoriété à ce niveau-là.
On a parlé de Carlo Ancelotti, parlons aussi de José Mourinho. Alors José Mourinho, justement, c'est le personnage un peu l'antithèse de Carlo Ancelotti. C'est plutôt le le clivant que le gentil ours. Il n'est pas forcément calme non plus. Et pourtant, José Mourinho, il vient lui aussi de glaner un nouveau titre qui a enrichi son palmarès européen. Il vient de remporter son 5e titre européen. Alors lui, il n'y a pas que des Ligues des Champions. Il y a 2 Ligues des Champions, 2 Ligues Europa. Et il y a maintenant cette toute nouvelle Ligue Europa Conférence. Est-ce que... Alors, il est le second à le faire parce que Trapattoni avait aussi remporté 5 Coupes européennes. Est-ce que c'est allez, Xavier, est-ce que c'est on va dire, le rebond discret de celui qu'on a surnommé un temps The Special One, parce que là, c'est pas une grosse équipe, c'est pas une grosse écurie, c'est la AS Roma, et il a réussi à remporter malgré tout ce trophée européen.
Alors, c'est lui qui s'auto-nommait Special One, c'est
ouais,
lui-même qui
l'avait. Et même Happy One, on a tout suivi dans Radio Foot, vous inquiétez pas.
Et donc non, mais là, je vais redire ce que j'ai dit déjà dans l'émission.
Le palmarès ne fait pas...
Non, au contraire. J'ai dit que quand José Mourinho est arrivé à Rome, c'est le genre de challenge qui peut le relancer. Je l'avais dit, je l'ai répété, je l'ai même écrit sur mes réseaux sociaux. Et donc, autant j'étais très critique, et dans cette émission évidemment, avec la façon de faire de José Mourinho à Manchester United, à Tottenham notamment, et même avant au Real Madrid déjà, autant je trouve que le challenge qu'il a pris à accepter à la Roma est vraiment intéressant. Parce que c'est un grand club, la Roma, c'est un club qui a un fort soutien populaire, mais qui s'était, ces dernières années, un petit peu, qui avait perdu un peu de crédit au niveau du championnat d'Italie. Et donc là, lui, il est arrivé avec une méthode, on la connaît sa méthode, elle s'adapte sûrement plus facilement aux équipes qui sont en reconquête, en recherche de retrouver des places plus adaptées à leurs ambitions, qu'au top club. Et là, ce qu'ils réalisent est intéressant. Alors, bien sûr, c'est que la Ligue Europa Conférence. Bien sûr, ils sont que 5e de la Serie A.
Oui.
Mais,
c'est le gros
mais
problème,
je trouve que c'est intéressant ce qu'il a commencé à faire. Voilà. Et j'ai envie de voir ce qu'il va faire par la suite, parce que c'est là où ça va être plus compliqué maintenant.
Frédéric, on sait que nos auditeurs aiment beaucoup José Mourinho.
Ils vont plutôt dans ce sens-là, ne vous en déplaise, Rémi.
Ah non,
il aime bien Xavier Caboret qui nous dit
«
Ancelotti est un bon entraîneur, mais Mourinho est un excellent entraîneur, car il a gagné des titres avec des équipes plus faibles. Valère Dossous, lui, il est à Lomé, pareil. Mou est le meilleur entraîneur au monde. Il a su gagner des titres avec de petites équipes. Anissé Balakzosi à Bangui encore. Vous voulez faire plaisir aux fans du Real Madrid tels que Rémi. » Oui, c'est ce qu'il nous dit là. Mais moi, personnellement, je ne crois pas que ce soit un homme de record. Bon.
Rémi ? Non, c'est pas un homme de record.
Est-ce que José Mourinho est en train de rebondir ou est-ce qu'il il veut... Parce qu'on dit que Carlo Ancelotti, ça serait peut-être sa dernière mission. C'est peut-être pas la dernière de Mourinho, mais en tout cas, est-ce que c'est un club à la taille de son ambition du moment, je dirais, par rapport au coup qu'il a pris en Angleterre ?
Je veux vous dire que ceux qui ont commencé avec José Mourinho sont déjà dans les réfrigérateurs ou les congélateurs ou même sont dans les cimetières. Mais lui, il est toujours là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a 9 vies, voire 18 vies de chat, et qui rebondit toujours de son soi-disant sarcophage où Xavier Barré et
les
autres peuvent parfois l'enterrer. Mais attendez, Annie, il faut savoir quand même que José Mourinho a relevé...
Xavier Mourinho
a relevé tous les défis. Parce que tout de suite là, je suis d'accord avec les auditeurs et téléspectateurs qui disent que effectivement, José Mourinho en 2003 avec Porto, eh bien, il remporte déjà en 2004 encore, il va gagner la Ligue des Champions.
Ouais.
Et je vais vous dire que
autre monde, vous le savez,
lorsqu'on voit la Ligue des Champions, il ne la remporte pas avec le Real. Mais il faut savoir que celui qui reconstruit le Real, c'est bel et bien Mourinho, parce qu'avant son arrivée...
Il n'y avait plus de demi-finale en Ligue des Champions.
Jamais le Real n'avait traversé les 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc finalement, il est arrivé en demi-finale de la Ligue des Champions. On en a remercié. Et maintenant, il est arrivé, que ce soit en Angleterre, où vous savez, par exemple, qu'il a remporté la Première Ligue. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. On me dit que c'est le championnat le plus difficile du monde. Mais il a remporté. Il est parti avec Inter. Avec Inter, il a remporté. Oui, c'était une équipe de vieillards. Okay. Donc, à une certaine période, maintenant, il va à l'AS Roma.
De Mourinho maintenant.
Le Mourinho maintenant est le Mourinho des temps lointains. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours gagné avec son club, puisque... Rappelez-vous, depuis le départ de Sir Alex Ferguson, le seul entraîneur ayant remporté un titre avec Manchester United s'appelle José Mourinho. Donc, Xavier Barré, je vous ai toujours dit, on peut détester le chien, mais reconnaissons que c'est donc ses dents sont blanches.
En tout cas, si Mourinho vient au Paris Saint-Germain, il fera aussi bien que Carlo Ancelotti puisqu'il sera champion dans 5 pays différents. Donc, ce n'est pas extraordinaire à partir du moment où on est dans les grands clubs.
Mais on voit que les grands clubs, le top 8 européen, n'ont Mourinho, pas vraiment envie d'appeler Mourinho. Il a eu sa chance dans le passé.
Il s'est un peu grillé, surtout en enchaînant Chelsea, Manchester United, Tottenham. Ouais.
Et là, gérer les égos, les stars, faire, il aurait dû faire mal.
Provoquer les égos.
Moi, je me souviens encore comment il a construit le Chelsea de Abramovich. C'était remarquable le travail qu'il a fait à partir de 2005. C'était 2004, c'était
en
remarquable.
Tout cas, les finales européennes ont été disputées. Les championnats nationaux sont terminés. Voici le retour du football de sélection avec les équipes nationales qui vont disputer ces prochains jours beaucoup de matchs officiels.
De la CAN 2023.
24 obtiendront leur ticket pour la Côte d'Ivoire.
Alors en Afrique, à peine sacrés les Lions du Sénégal à Yaoundé, on s'en souvient, c'était il y a fort peu de temps, en février 2022, ils étaient champions, ces Lions du Sénégal. Mais se profile déjà la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors bien sûr, à cause du Covid, tout a été décalé et ça sera donc en 2023, dans à peine un an. Les éléphants sont eux qualifiés d'office, mais participeront malgré tout aux éliminatoires qui ont donc déjà commencé. On peut citer des victoires, celle des Comores sur le Lesotho, celle du Ghana sur Madagascar ou encore celle de la Tunisie sur la Guinée équatoriale. Un vrai marathon en tout cas pour les 48 sélections qui sont en piste, 23 places à prendre. Ces dernières semaines, ces sélections ont même parfois changé de sélectionneur. Pour ce qui est du Sénégal, on continue sur la lancée, c'est toujours Aliou Cissé et elle jouera cette sélection contre le Bénin. Les Ivoiriens, eux, ont opté pour un entraîneur français, Jean-Louis Gassé, la Libye avec Quentin Martins qui a d'ailleurs déjà gagné. Bref, est-ce que ce moment, Rémi, est propice pour ces équipes ? Parce qu'il y a ces éliminatoires, mais on vient de disputer une CAN et en même temps, il y a 5 équipes qui pensent déjà à la Coupe du Monde pour laquelle on n'aura pas le temps de se préparer.
C'est très difficile, d'autant plus que la plupart des joueurs africains devraient se taper d'abord aussi 6000 km après avoir fait peut-être 60 matchs, ce qui rend très compliqué dans la mesure où, contrairement à la Ligue des Nations...
Il y a deux journées pour ce qui est des éliminatoires. Là.
Oui, contrairement à la Ligue des Nations où c'est quand même presque des matchs c'est des matchs amicaux. Là-bas en Afrique, ça se discute actuellement dans la mesure où tout actuellement c'est... Tout semble s'équilibrer, il n'y a plus de petites équipes. Donc, je trouve que, franchement, il y aura une difficulté au niveau des organismes et surtout ces voyages parfois pour aller dans un autre continent. Mais maintenant, les enjeux sont très, très importants dans la mesure où la Coupe d'Afrique des Nations prend de se. Une véritable envergure sur le plan international et d'autant plus aussi que les internationaux africains qui évoluent en Europe tiennent absolument à cœur à pouvoir remporter cette CAN-là. Et même la Côte d'Ivoire qui est déjà qualifiée, l'enjeu est vital parce qu'il faut savoir que Jean-Louis Gasset déjà est combattu, c'est-à-dire qu'il ne fait pas l'unanimité au niveau de la Côte d'Ivoire dans ces conditions de recrutement. Et quand on essaie donc de voir cette équipe-là, elle est déjà au pied de mur parce que ce n'est pas un match amical qui va se jouer là. Contre la Zambie.
Il faut savoir que la Zambie,
quand on voit la statistique, c'est la Zambie sur 6 rencontres, c'est 4 victoires.
Comment Rémi
Jean-Louis Gasset est déjà, et d'autant plus que la Côte d'Ivoire également, a perdu une finale.
Comment Rémi Ngonou peut dire que toutes les équipes sont à égalité, alors que parmi les résultats que vous avez rappelés, Annie, il y a quand même eu un 4-0 pour la Tunisie contre la Guinée équatoriale, un 3-0 pour le Ghana face à Madagascar.
Il y a juste une Coupe Tunisie et Ghana qui seront à la Coupe du Monde. Donc ils sont déjà en mode Coupe du Monde.
Absolument. Donc on voit clairement qu'il y a des équipes qui représenteront le continent africain à la Coupe du Monde, qui sont au-dessus des autres. Donc, Rémi Ngonou nous dit que tout le monde est à peu près... Non, c'est pas vrai. Il y a des équipes qui sont plus fortes que d'autres et qui sont en train de le confirmer lors de ces phases
Je comprends que l'Italie, qui ne sera pas à la Coupe du Monde, est une équipe très faible. Donc, pour vous, dès qu'une équipe n'est pas à la Coupe du Monde, l'Algérie ne sera pas à la Coupe du Monde. Tu vas dire que c'est une pauvre équipe, n'est-ce pas ? La Côte d'Ivoire ne sera pas à la Coupe du Monde. Mais attendez, qu'est-ce qu'il est en train de raconter, ce monsieur ?
Je l'ai dit... Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut remarquer quand même, même, Annie, vous l'avez évoqué, c'est qu'il n'y a que deux journées éliminatoires de la CAN, alors qu'il y a quatre journées de la Ligue des Nations en Europe. Et la Confédération africaine voulait au départ mettre quatre journées aussi d'éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, et que finalement, elle a écouté les équipes africaines qualifiées, enfin les fédérations des équipes africaines qualifiées pour la Coupe du Monde, pour qu'ils puissent jouer des matchs amicaux contre des formations d'autres continents.
Comme le Maroc, donc, qui est allé jouer aux
États-Unis. Bon, ils ont perdu 3-0, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage et je trouve ça intéressant comme démarche pour permettre justement aux équipes africaines de se frotter à des formations d'autres continents.
Frédéric ?
Oui, non, mais c'est vrai que ces éliminatoires, il faut bien les jouer. Hein, parce qu'il y a eu quand même le Covid, la CAN qui se joue au Cameroun. Mais bon, jusqu'au bout, on se demandait si elle allait bien pouvoir avoir lieu. Finalement, on s'est retrouvé en janvier 2022 pour une CAN qui aurait dû avoir lieu un an avant, janvier 2021.
Au Cameroun, elle devait avoir lieu en 2019,
bon, oui,
déjà.
Bon, mais c'est pour ça qu'on se retrouve aussi, trois mois plus tard, à démarrer les éliminatoires suivants. Ouais. Mais c'est
et
le cas
plus,
pour les équipes européennes, c'est le cas sur
tous
les continents. Et il n'y a pas vraiment d'autres fenêtres. Ces éliminatoires, vous l'avez dit, il n'y a que six journées. C'est pas beaucoup. Un faux pas, deux faux pas, et vous pouvez être en difficulté.
Il y a 24 qualifiés quand même.
Il y a 24 qualifiés, mais on a vu.
Puisque la Côte d'Ivoire y est déjà.
Lors des dernières éditions, du Burkina, ça peut arriver de passer à la trappe.
Exactement.
Donc quand vous voyez, oui, le Ghana là, qui gagne largement, la Tunisie, ils ont bien compris qu'il fallait gagner les deux premiers matchs pour. On fait le plein. Et derrière, on peut penser novembre, décembre à la Coupe du Monde. Mais oui, il faut voir loin et avoir ces deux objectifs en tête.
Et justement, on va en parler sous l'angle aussi européen, parce que les Européens, ils ont à peu près le même dilemme, c'est-à-dire à la fois penser à des matchs officiels, mais aussi penser à cette Coupe du Monde, qu'il y aura à peine 15 jours de préparation accordée sur le calendrier international. Et du coup, ça devient compliqué pour les sélectionneurs. Alors, on en est en Europe à la troisième édition de cette encore nouvelle compétition qui s'appelle la Ligue des Nations. On a des belles affiches. Hein. On a eu un Espagne-Portugal hier avec un match nul 1-1. On aura un Italie-Allemagne au cours du week-end. Mais cette Ligue des Nations qui vient de reprendre est une compétition qui auparavant, on parle de calendrier, s'est allée de septembre à novembre. Et puis il y avait un petit tournoi final plus tard au printemps. Là, malheureusement, à cause de la Coupe du Monde déplacée, elle devrait pratiquement commencer maintenant, on a rapatrié la Ligue des Nations. Et les joueurs se désespèrent un peu. J'ai trouvé quelques déclarations, par exemple celle de Bernardo Silva, qui vient d'être champion d'Angleterre avec Manchester City, international portugais, sélectionné avec son équipe. 58 matchs déjà. Et hier soir, en sortie de match, il a dit « C'est très dur pour des joueurs. Lors d'une saison, nous avons joué 60 matchs ou à peu près, de venir ici et d'en jouer 4 de plus. » Alors, on a des déclarations de Kevin De Bruyne, à peu près dans le même ton. Virgil van Dijk, lui de Liverpool. Pour Benzema, ça sera le 54e match quand il jouera le match des Bleus contre le Danemark. Est-ce que, Xavier, il y a un problème pour les sélectionneurs? C'est en même temps ces joueurs qui sont épuisés et en même temps, il faut déjà penser à la Coupe du Monde. Tous y pensent.
Là, tout ce calendrier est bouleversé. Alors, Fred Suto l'a rappelé par le Covid, mais aussi par le fait que la Coupe du Monde ait lieu à une date inhabituelle.
Exactement.
Parce que normalement, si c'était l'Australie qui l'aurait organisée ou l'Angleterre ou les États-Unis, enfin, comme c'était prévu avant qu'il y ait eu des petites magouilles qui les l'a amené au Qatar, la Coupe du Monde, elle serait maintenant. Donc là, maintenant, les joueurs seraient en train de se préparer pour la phase finale. Et cet automne, on aurait les journées de Ligue des Nations. Donc là, le calendrier, effectivement, est inversé. C'est très particulier. Mais ces compétitions, elles ont été voulues par les fédérations et même par les sélectionneurs. Parce que qu'est-ce qu'ils réclamaient, les sélectionneurs? Ils disaient qu'il y en a marre de se retrouver avec des fenêtres internationales, avec des matchs amicaux qui n'intéressent pas les joueurs. Donc là, l'UEFA a créé cette Ligue des Nations, qui est un vrai succès, un succès populaire, un succès d'audience. Et les joueurs la jouent. Le Portugal de Cristiano Ronaldo a remporté la première édition. La France a remporté la deuxième édition l'automne dernier. Donc, on a vraiment des belles compétitions. Le problème aujourd'hui qui va se poser, c'est le maintien des éliminatoires traditionnels, en Europe notamment, par rapport à cette Ligue des Nations. Et on sait que l'idée qu'avaient déjà depuis de nombreuses années les grosses fédérations, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, c'est d'enlever les matchs contre les petits pays, contre Andorre, contre le Saint-Marin, contre le Liechtenstein, et de faire des éliminatoires Que entre eux. Non, parce qu'actuellement, vous avez les deux qui se juxtaposent, qui se superposent.
Oui,
vous avez la Ligue des Nations par division,
c'est
qui est vraiment intéressante, et les éliminatoires avec encore les petits pays qui prennent des 10-0. Donc, on va voir comment ça se passe à l'avenir. Mais il est probable qu'effectivement, ce qu'a commencé à faire l'UEFA pour, l'Euro, il y ait une place pour la petite division, ce qui se fait également dans le continent asiatique, et puis que les autres pays se qualifient par la Ligue des Nations.
Rémi, une chose, est-ce qu'on ne doit pas redouter finalement une hécatombe de blessures cette saison, alors tant en Afrique, hein, avec les joueurs africains qu'avec les joueurs européens, à cause on a serré comme comprimé le calendrier comme on pouvait pour tenir des échéances, mais finalement, est-ce qu'on ne demande pas trop? C'est ce que disent les joueurs. Hein. C'est ce que dit, par exemple, Kevin De Bruyne. Il dit... D'accord, on a 3 semaines de vacances à l'année, mais nos corps ont besoin de plus.
C'est vrai, Bernardo Silva, d'ailleurs, vous avez pu voir le match d'hier, même si on peut dire qu'il était d'une grande envergure, on a constaté quand même que, entre le Portugal et l'Espagne, les organismes semblaient véritablement éprouvés. Et c'est ce qu'il a justement eu à démontrer que c'est invivable. Et d'ailleurs, je suis un peu surpris que dans la composition de l'équipe de France, qu'on annonce Karim Benzema titulaire, c'est-à-dire qu'il vient de gagner la Ligue des Champions il y a juste 8 jours, et puis il devient titulaire dans un match comme ça, alors que
la Ligue des Nations, Rémi, c'est 4 matchs en 10 jours.
4 matchs, et quand
Danemark,
on voit...
Autriche, par exemple, et Croatie 2 fois. Hein.
Parce que quand vous parlez d'ailleurs des 54 matchs qu'il a enchaînés, contrairement à d'autres, lui, au Real Madrid, il est titulaire indiscutable parce qu'il n'a pas de remplaçant. Ça fait qu'il a pratiquement joué tous les matchs dans leur entièreté. Non, ils ne jouent presque jamais. Ils n'ont jamais joué.
Si, donc, quand Benzema était blessé.
Non, mais autrement dit, il n'aurait pas fait 54 matchs. Mais soyons donc, sérieux. Autrement dit, il n'aurait pas fait les 54. Mais les 54 sont intenses.
Oui, il faut avoir de la peine même pour ces joueurs.
Oui, il faut avoir beaucoup de la part parce que finalement, on est en train de griller des joueurs, on est en train de les tuer. Et je crois d'ailleurs que comme on est en train de parler d'une préparation avec la Ligue, avec la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde, il y a déjà la reprise des championnats. Et sans oublier qu'il y aura aussi la Ligue des Champions qui sera bel et bien là, sans oublier que tout ça va s'enchaîner et automatiquement, les organismes ne pourront pas supporter. Et quand on va arriver à la Coupe du Monde, on verra des gens qui vont tirer déjà la langue et peut-être on n'aura pas le même spectacle.
On se disait que ça sera en début de saison, mais
je ne pense pas, je suis d'accord avec Rémi Baudot,
qu'on mette, par exemple, ceux qui n'ont pas eu à jouer véritablement, qui étaient des coiffeurs, des jardiniers, qu'ils fassent cette compétition-là que de mettre des titulaires. Ces titulaires vont mourir. Il y a un proverbe africain qui dit « Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort ».
Et moi, je voudrais ajouter, c'est qu'on a aussi des affiches. Là, on a France-Danemark ce soir. Bon, belle affiche.
Mais
le France-Danemark qui compte, ce n'est pas celui-là. C'est celui qui aura lieu au Qatar à la Coupe du Monde, parce que les deux équipes se retrouvent dans le même groupe. Donc même là, pour les sélectionneurs, pour les joueurs, c'est pas si simple. La France est au Stade de France, guichet fermé. Là, ils vont peut-être gagner 3-0, 4-1, ils seront contents. Mais celui qui compte, c'est celui du mois de novembre. Et Didier Deschamps, il l'a déjà évoqué. Quand il a vu le tirage au sort de la Ligue des Nations, ça ne lui a pas plu de retrouver les Danois, vous voyez.
Oui, mais encore une fois, c'est lié au fait que le calendrier est inversé à cause de la Coupe du Monde qui est en novembre. C'est
rien n'est simple donc, dans le monde du football. Allez, on continue. On va parler de très jeunes qui sont déjà sacrés champions d'Europe. Ils marchent dans les traces, dans les crampons de leurs aînés. Et eux aussi ont remporté un titre, un beau titre. C'est celui de champion d'Europe, les Bleuets, l'équipe de France des moins de 17 ans. Alors, des Bleuets, hein, parce qu'il y en a beaucoup des équipes de jeunes. Ils viennent donc de remporter l'Euro. C'était en Israël, victoire 2-1 sur les Pays-Bas. Le héros de la finale est le double buteur. Il s'appelle Sahel Koumbédi, une sorte de Thuram, hein, puisque c'est un latéral droit et qu'il a marqué un doublé et qu'il a fait gagner son équipe, lui qui n'avait jamais marqué. Mais si on connaît encore le nom de certains, il y a des fils d'eux, on pense au gardien qui s'appelle Olmeta, comme son papa qui était gardien fut un temps. Il y a aussi un certain Zidane. Alors là, c'est le plus jeune, Elias, qui a lui joué très peu, mais qui est rentré aussi dans cette équipe. On avait eu la génération 87 qui avait gagné l'Euro en 2004. On avait eu la génération 98 qui a gagné l'Euro en 2015. Xavier, est-ce que là, on a une génération, c'est la génération 2005. Est-ce que c'est vraiment la relève de la future équipe de France ou pas vraiment?
C'est trop tôt, en fait. Les 17 ans, c'est très compliqué de dire qu'ils vont être la relève. Autant les 20 ans. et la Coupe du Monde des 20 ans remportée par la génération Pogba, Digne, Areola, il y avait aussi Veretout d'ailleurs dans cette équipe, Thauvin qui lui aussi a été à la Coupe du Monde. Autant à 20 ans, on a une vision, on voit comment ils se sont développés. 17 ans, c'est très très jeune et beaucoup d'ailleurs se perdent en chemin. J'ai regardé la liste parce que...
Oui, je crois un peu tous regarder.
Voilà, la fameuse génération 87 qui a été championne d'Europe en 2004, sur tous les joueurs qui étaient sélectionnés, il y en a 5 seulement, ce qui est déjà beaucoup d'ailleurs,
beaucoup,
qui sont allés en équipe A.
Parce qu'ils sont allés assez
A,
loin en plus.
Et donc il y a Costil qui était le gardien, Nasri, Ben Arfa, Menez et Benzema qui à l'époque était remplaçant d'ailleurs. Et donc, ça montre comment il a travaillé pour devenir vraiment aussi fort qu'il est maintenant. Après, vous regardez la génération 2015. Alors, c'est plus récent, ils peuvent encore rebondir. Mais il y en a deux qui sont venus en équipe de France. Ah, Ikoné et Upamecano. Les autres, pour le moment, il y en a...
Jeffrey Nadeleïd aussi.
Il y a Jeffrey Nadeleïd en espoir, mais il est souvent blessé. Ouais. Hudson Edouard aussi. Fetou Mawassa. Alex Georgin qui vient de monter avec la JIA en Ligue 1, donc, qui a été formé au PSG. Donc il y a quelques bons joueurs, mais il n'y a pas cette attente. Et puis moi, surtout, je voudrais revenir à 2001, la génération des 17 ans qui a été championne du monde, qui avait gagné la Coupe du Monde des 17 ans. On parle de l'Euro, mais là, ils avaient gagné la Coupe du Monde des 17 ans en 2001. Ils avaient gagné en finale contre le Nigeria 3-0 avec Florent Sinamapongol. Et ben, c'est le seul, en fait, qui est allé en A. Son complice, le Talek, n'est jamais monté en A. Tous les autres, il y avait notamment Samuel Piètre, Jérémy Berthaud de Lyon. Ils ne sont pas montés en A. Quelques-uns sont partis jouer avec des sélections africaines, notamment Emers Faé, qui est maintenant l'adjoint de Gassé en Côte d'Ivoire. Mais sinon, ils sont très peu à arriver au très haut niveau.
Et Frédéric, c'est ça, c'est, il faut tenir non seulement physiquement, parce qu'il y a évidemment une exigence énorme, il faut aussi tenir la discipline.
Psychologiquement.
Le niveau d'Europe, ça vous monte peut-être à la tête un peu vite. Hein. Vous revenez, ça y est, on a gagné. Et le chemin est encore long. Non, ce que ça montre en tout cas, c'est que l'école de formation française, les centres de formation, ça fonctionne. Vous y êtes depuis 12, 14 ans et 3 ans après, on a une superbe génération qui va gagner chez les U17. Mais effectivement, avant d'être appelé par Didier Deschamps, il y a du chemin. Regardez Bouba Camara. Non, bon, c'est un autre sujet. Qui vient d'être appelé, qui ne jouera pas ce soir. Mais il faut encore faire ses preuves, jouer des Coupes d'Europe. C'est sur la durée qu'on pourra les juger.
La réussite de l'entraîneur, elle est remarquable cette année parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire les sélections comme auparavant à cause du Covid. Parce que beaucoup de championnats de jeunes ont été arrêtés. Beaucoup de sélections de jeunes ont été arrêtées. Les procédures de sélection n'ont pas pu avoir lieu comme d'habitude. Donc le boulot qui a été fait par José Alcocer est tout à fait remarquable.
Rémi, en même temps, c'est une belle école de formation. Quand même, ces petites compétitions, ces compétitions pour les plus jeunes, c'est pareil, les CAN des moins de 21 ans, les CAN de moins de 17 ans permettent aussi de mettre en piste les joueurs et de se frotter à l'exigence du haut niveau.
Ah oui, mais si je regarde les CAN comme ça au niveau de l'Afrique, tout cela d'ailleurs, les CAN de moins de 17 ans, vous allez voir les 28 ans qui les jouent. Donc finalement, ça devient un peu compliqué. Donc finalement, Par contre,
c'est difficile c'est-à-dire, de retrouver,
vous savez, le football, c'est comme une école de vie. Ce n'est pas toujours les meilleurs au début qui atteignent le port d'arrivée. On peut le voir, par exemple, en équipe de France. Au championnat de France, j'ai vu, par exemple, Jérémy Menez, qui avait claqué avec Sochaux un triplé, c'est-à-dire à 16 ans, en Ligue 1. Tout le monde m'a dit que ce sera ceci, il va devenir cela, il va faire ceci. On m'a même présenté un certain Martin comme étant le futur Zinedine Zidane. Je ne sais même plus là où il se trouve. On m'a présenté Juan Gourcuff. On a dit que celui-là, alors, c'est Platini plus Zidane, le tout mélangé. Et puis, l'un des meilleurs dribbleurs de tous les temps, qui d'ailleurs apprenait le football à Benzema, c'était bien évidemment Ben Arfa. Mais on sait pertinemment où se trouve actuellement.
À
la Friperie. Il joue actuellement dans l'équipe nationale de Friperie de France. Donc, quand on essaie donc de regarder ce qui se passe, c'est que justement,
ce n'est pas que sportif.
Oui, parce que justement, même parfois, ceux qui ont raté en formation. Par exemple, on avait vu Mathieu Valbuena, les Ribéry, qui avaient échoué en formation, qui sont devenus des très, très grands joueurs après. Mais ceux qui, au début, ont beaucoup brillé, par la suite, c'est devenu pratiquement des... C'est pour ça que moi, je dis... Il y a un proverbe africain qui dit...
Parce que Ousmane Sambou nous dit, Rémi, on a besoin d'un proverbe. Ousmane Sambou.
Alors, Rémi. Toutes les fleurs ne donnent pas des fruits. tout comme tous les œufs, ne donne pas des coques.
Il est pour Haussmann, celui-là.
Ah, bon, bah, c'était un joli proverbe, Rémi, pour conclure ce débat sur les espoirs que suscitent des jeunes, mais aussi leur rappeler que la route peut être très longue. On continue, on a les cartons et nos auditeurs sont très inspirés aujourd'hui.
Carton jaune.
Un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Nos auditeurs donc nous ont envoyé beaucoup de cartons sélectionnés sans cœur, mais si, avec beaucoup d'intérêt par David Finzel.
C'est Mamadi Doumbouya depuis qu'on a crié Madrid, Madrid, Inada Mas, Hala Madrid. Félicitations au grand Real Madrid. Carton vert à tout le Real. Félicitations au grand Remingono qui avait tout prévu. J'espère que vous avez arrivé à comprendre qu'un grand n'est pas un petit. Merci beaucoup.
Moi, c'est Clovis, Camerounais résident à Montréal, au Canada. Mon carton aujourd'hui est rouge comme du sang à l'endroit de tous les détracteurs du Real de Madrid et à Xavier Barré, qui en début de saison disait que le championnat d'Espagne est devenu un championnat de seconde zone parce qu'on n'a plus Messi ni Cristiano Ronaldo. Alors je veux qu'ils viennent me convaincre aujourd'hui, car le Real de Madrid a remporté sa dernière Ligue des Champions en éliminant les trois leaders du championnat d'Angleterre. Qu'ils viennent me convaincre et qu'ils acceptent une fois de plus que le Real de Madrid est le meilleur club du monde, le meilleur club d'Europe de tous les temps. Je donne un coucou à mon compatriote et ami supporter du Real de Madrid, Rémi Ngono. Ciao, ciao, big up.
Bonsoir Annie, bonsoir à toute l'équipe de Café des Sports. Je m'appelle Khalifa Semessa, je viens du Sénégal. Je voudrais donner un carton vert à Karim Benzeghal après avoir remporté la Ligue des Champions. Il sera probablement Ballon d'Or. Ciao.
Salut Café des Sports, c'est Duvet Mwanda depuis le Congo-Brazzaville. Je donne un carton vert à l'équipe de Nottingham Forest pour leur montée en Première Ligue, 23 heures après. Comme dit un proverbe africain, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra.
Salut Radio Foot, c'est Baïmé Koumba Diop depuis le Sénégal. Carton vert à Sadio Mané, qui a décidé de quitter Liverpool. C'est le moment Sadio, tu as tout gagné à Liverpool. Allez Sadio, tente d'autres challenges. C'est le moment ou jamais. Allez Sadio, on est derrière toi.
C'est Yasule Kabier depuis Lomé. Je donne un carton vert à Thibaut Courtois pour ses 9 arrêts lors de la finale de Champions League. Carton vert à tonton Frédéric Sito qui a su remplacer véritablement Alessandro Valente. Merci.
Moi, c'est Georges, je vous appelle de Londres. Et puis, bonne fête à la reine, à Platinum Jubilee. Et mon carton vert, c'est dédié à l'équipe des Blasters du Ghana qui ont battu compréhensivement après deuxième mi-temps le Madagascar le mercredi. 3-0. Superbe aux enfants. Et puis surtout à Fanadja.
C'est Franck Mvendo depuis Kinshasa. Carton vert à l'équipe de l'Ukraine qui a assuré sa victoire face à l'équipe de l'Écosse. Malgré la crise du pays, ils ont montré sur le terrain de quoi ils sont capables. Félicitations à vous, le bleu et jaune.
Bonjour, c'est Togo Zanfana. Je suis africain d'origine togolaise, résident aux États-Unis d'Amérique. Carton vert à l'arbitre français Clément Turpin, qui a été à la hauteur de la finale de la Champions League. Et comme d'habitude, c'est la maison blanche qui gagne.
Salut, salut, Radio Foot International. Moi, c'est Combatté Moïse, depuis Lomé. Mon carton est très simple, c'est un carton vert. Et qui va à qui? Tout simplement au meilleur joueur du monde. Je parle bien sûr de Lionel Messi, qui continue de faire telle critique en remportant encore une fois un trophée avec sa sélection. Merci.
Bonjour Radio Foot, Kadia Gabla depuis le Burkina Faso. Alors aujourd'hui mon carton il est vert et je l'adresse à tous ces joueurs qui sont des pièces maîtresses au sein de leur club mais extrêmement sous-cotés, trop sous-cotés à mon goût. Je pense en tête de ma liste à Hugminson à Tottenham, je pense à Rodri de Manchester City, je pense à Fabinho au niveau de Liverpool. Je ne peux pas tous les citer, ils sont nombreux, vous les connaissez mieux que moi, mais tous les médias les sous-cotent.
Kylian, le PSG Club.
Armand Kiba depuis Pointe-Noire, je donne un carton rouge aux autorités françaises incapables, incompétentes d'organiser une finale d'une Champions League alors que la CAF vient d'organiser sa sienne sans problème. Au lieu d'avouer leur forfait, elles préfèrent mentir les gens. Carton rouge à vous.
Eh bien, c'est dans la diversité, hein, nos auditeurs et tous ceux qui nous suivent. En tout cas, ils sont toujours au fait de ce qui se passe dans le monde du football. Bien. Et ça, c'est extraordinaire.
Rien ne leur échappe.
Alors justement, le carton de Radio Foot International, je prends la main, excusez-moi, mais c'est parce que ça va dans la lignée de notre dernier auditeur. C'est un carton énorme et rouge aussi à l'organisation de cette finale de la Ligue des Champions, parce que quelles que soient les responsabilités, bien sûr, depuis une semaine, on fait porter la responsabilité du chaos aux abords du Stade de France aux supporters anglais de Liverpool. C'est totalement malhonnête et honteux, donc carton rouge à toute l'organisation de ce très beau match par ailleurs. Xavier Barret, votre carton, quelle couleur?
Rouge aussi, moi.
Ah non.
Rouge, mais rouge pour les Verts qui descendent donc en deuxième division après avoir perdu le barrage contre Auxerre. Alors, c'est un club qui a été 10 fois champion de France, c'est le record en France avec le Paris Saint-Germain, donc, qui descend parce qu'il y a eu énormément de mauvais choix qui ont été faits, notamment les dirigeants, on l'a déjà dit, il y a eu un changement d'entraîneur en cours de saison, mais je pense qu'on n'a pas aussi assez souligné la responsabilité des joueurs, parce qu'il y avait quand même des joueurs confirmés, des internationaux notamment, dans cet effectif, des joueurs qui pointent à 100, 180 000, 200 000, 250 000 euros par mois et qui ont été incapables de mouiller le maillot jusqu'au bout pour maintenir ce monument du football français. Donc carton rouge à eux, il y en a 14 qui sont en fin de contrat d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils vont retrouver des contrats aussi avantageux de sitôt.
On peut aussi mettre un carton rouge à leurs supporters, hein, parce que, ou au public qui est venu au stade l'autre jour. Et
qui a exprimé son désarroi pas devant...
Un peu
devant
tout au long de la saison, oui, devant, ouais. Et d'une façon pas toujours très... très normal. Rémi, à vous la main.
Oui, les fans de la page Facebook Rémi Gonan donnent un carton vert à un grand homme. Iraoulé. Oui, Alain Pardieu, l'entraîneur du CSKA Moscou. Oui, mais ce monsieur a réussi l'exploit à monter jusqu'où il ne peut pas seulement se mettre à la portée de l'argent et supporter qu'on insulte ses joueurs. La dignité humaine, il l'a respectée parce que les supporters bulgares se sont mis à insulter des joueurs noirs, des cris racistes, ont balancé des bananes. Lui qui a été recruté en avril a décidé de claquer la porte de ce club bulgare. Bravo, si beaucoup d'autres entraîneurs et des leaders pouvaient le faire, je crois que ce serait une bonne lutte contre le racisme. La Bulgarie, ce n'est pas la première fois qu'ils le font, que ce soit Sterling et autres. Ils ont été insultés là-bas, mais nous le savons. Aussi vrai ils trouvent que les Noirs sont peut-être réduits, aussi vrai nous savons qu'ils sont tout simplement ignorants, comme le dit un proverbe africain. L'ignorance et la haine sont la nuit de l'esprit. Cette nuit n'a ni étoile ni lune.
Frédéric, à vous pour conclure. Quelle est la couleur de votre carton?
C'est un carton jaune. Alors certains diraient que ça pourrait être un rouge, d'autres peut-être un vert. C'est Geoffrey Kondogbia, l'international centrafricain qui boude la sélection depuis l'été dernier. Alors il avait été plus jeune international français, il a même 5 sélections avec les Léa, mais il a choisi de rejoindre la Centrafrique et puis il y a un an, ça ne lui plaisait plus. Bon voilà. Là, les éliminatoires, on l'a dit, ont commencé. Il est parvenu, mais il a donné une conférence de presse à Bangui où il pose un peu ses conditions. Il dit qu'il est prêt à revenir, mais voilà, concrètement, je veux avoir mon mot à dire sur des choses importantes. Le projet à long terme, j'ai la légitimité de pouvoir demander cette place, de penser que mon avis compte. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui ont tout gagné, j'ai joué avec les meilleurs, etc., etc. Le joueur dépasse un petit peu
l'institution.
L'institution.
La seule chose peut-être, c'est quand il se plaint que l'équipe de Centrafrique ne joue pas devant son public depuis si longtemps.
Elle aurait bien besoin de lui sur le terrain.
Exactement. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup messieurs d'avoir été présents aujourd'hui et d'avoir animé ce Café des Sports comme chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine et pour les auditeurs de Radio Foot, dès lundi sur RFI. Merci. RFI.